Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Christelle Yessot.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette édition. Au sommaire, la Journée internationale des droits de la femme a été officiellement célébrée hier jeudi avec en ligne de mire la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. On en saura plus au cours de cette édition. Programme d'urgence des logements sociaux, les explications du ministre de la Construction et de l'Urbanisme sur les réformes du programme au cours de ce journal. Au Sénégal, un collectif dénonce la sous-représentation des femmes dans le nouveau gouvernement. Et nous refermerons ce journal avec comme invité de la rédaction Ntcho Kwao Vincent, vice-gouverneur du district d'Abidjan, qui interviendra sur l'interdiction d'exercer et de sévir des commerçants ambulants, mendiants et charretiers dans la capitale. En bref, le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis ce jeudi est en visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Et hier, après un entretien avec ce dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a souligné qu'ils ont échangé sur la situation politique dans les deux pays, tout en félicitant son hôte pour la convocation du dialogue national inclusif se déroulant actuellement au Gabon. Pour sa part, le général Oligui Nguema a indiqué avoir sollicité l'appui du chef de l'État ivoirien pour un plaidoyer auprès de l'Union africaine en vue de la levée des sanctions qui pèsent sur le Gabon. Notons qu'au cours de ce séjour de 3 jours, le chef de l'État gabonais visitera le Centre national de recherche agronomique, CNRA, et la centrale thermique d'Azito dans la commune de Yopougon, ainsi que le parc des expositions d'Abidjan situé dans la zone aéroportuaire de Port-Boué. Tout autre sujet, la 47e édition de la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme s'est tenue hier jeudi à Songon-Dagbé, dans le district autonome d'Abidjan. Pour l'édition 2024, le thème retenu par la Côte d'Ivoire est « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Cet événement s'est déroulé en présence de la première dame Dominique Ouattara et du premier ministre Robert Begré-Mombé. Jean-Claude Nabéa y était, suivons son compte-rendu.
Le choix du thème de l'édition 2024 met en lumière la nécessité de combattre la pauvreté afin de réduire les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes, selon Philippe Poinceau, le coordinateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
Nous devons accélérer considérablement le rythme du changement. Cela nécessite une concentration et une détermination politique, et cela nécessite des investissements. Notre thème pour la Journée internationale de la femme de cette année. Ces investissements doivent viser à mettre fin à la violence contre les femmes, à améliorer l'accès des femmes et des filles à l'éducation et aux compétences, à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les secteurs des entreprises, au sein du gouvernement.
Pour Nassene Batouré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les femmes doivent désormais saisir toutes les opportunités pour la promotion de leurs droits.
C'est à nous, femmes, en premier lieu, de nous prendre en charge et de faire face ensemble à tous les défis et obstacles se dressant devant nous. Jamais nous ne devons douter de nos forces, ni baisser les bras devant les difficultés inhérentes à notre condition et destin de femme.
Initialement prévue le 8 mars, la célébration de la GIF 2024 a été décalée à la demande des Nations Unies qui ont convié tous les États à commémorer cet événement à leur siège à New York en marge de la 68e commission de la condition de la femme.
Et au cours de cette célébration, la première dame, Dominique Ouattara, a annoncé remettre la somme de 200 millions de francs CFA aux femmes de Songon pour leur autonomisation relativement au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa.
J'ai initié depuis 2012 le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour apporter un soutien efficace à l'autonomisation et à la formation de nos sœurs à l'échelle nationale. Ce fonds, qui atteint aujourd'hui un capital de 26 milliards de francs CFA, permet à plus de 370 000 femmes d'être autonomes financièrement et de sortir à leur tour plus de 2 millions de personnes de la précarité. Je tiens à cet effet à remercier à nouveau le président de la République pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde depuis toujours. Il est le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire et grâce à sa volonté et à ses actions, la situation des femmes s'améliore de jour en jour dans notre pays. Mes chères sœurs, aujourd'hui, je vous emmène un capital additionnel de 200 millions de francs CFA que nous mettons à disposition des femmes de Songon afin de leur permettre le financement de plus d'activités génératrices de revenus. Je suis intimement convaincue que c'est ensemble que nous parviendrons à faire évoluer la question des droits de la femme, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes et capables de surmonter toutes les difficultés.
À l'instant, la première dame Dominique Ouattara. En politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, se prononce sur la suppression de la commune du Plateau, dirigée par Jacques Ewo, un maire issu de ses rangs, lors d'une conférence de presse tenue jeudi à la maison du parti à Cocody. Ce débat a été initié par Dablé Jean Syriac, présenté comme un observateur indépendant de la vie politique ivoirienne, qui argumente en faveur de l'intégration de la commune du Plateau dans le district autonome d'Abidjan, avant que cela mettrait fin à certaines anomalies, notamment la transhumance électorale et l'utilisation inefficace des ressources budgétaires. Pour le porte-parole Bredoumi Soumaïla, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une tentative de manipulation politique dirigée contre un élu du PDCI-RDA. Il est au micro de Mata Touré.
Le PDCI-RDA se sent donc interpellé. D'abord, parce que cette commune est dirigée depuis plusieurs années par des équipes successives dont les têtes de liste ont toujours été des militants du PDCI-RDA. Ensuite, les arguments avancés sont très discutables et pour certains diffamatoires. La commune du Plateau est habitée par 7000 personnes et pourtant compte 82 000 inscrits sur la liste électorale. Pour rappel, les conditions d'inscription sur les listes électorales sont régies par les textes réglementaires et non dictées par le maire du Plateau. Je voudrais donc que le libre penseur se réfère. Il veut qu'on transfère ça au district. Ce n'est pas à la loi 2012 que la suppression ou toute modification de son ressort territorial d'une commune se fait par décret pris en conseil des ministres. Donc, pour modifier, il faut aller en conseil des ministres. Si le libre penseur pense qu'il va l'écouter, c'est que le gouvernement va adopter ses arguments. Cela veut dire en clair que c'est sur un rapport motivé du ministre en charge des collectivités territoriales qui doit pouvoir envoyer ce rapport. Ce même article indique qu'en cas de suppression d'une collectivité, son ressort territorial est rattaché à une ou plusieurs collectivités territoriales rattachées, entités décentralisées. Or, le district d'habitants où il veut qu'on arrête là n'est pas une collectivité décentralisée.
Vous écoutiez Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, était l'invité ce jeudi du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Au cours de cette conférence qui s'inscrivait dans le cadre des grandes rencontres du CESEC, Bruno Koné est revenu sur le programme d'urgence des logements sociaux portant sur 25 000 logements. Suivons-le au micro de Didier Blé.
Il se trouve que ce programme a été lancé avec le secteur privé. L'État s'étant contenté de créer le cadre d'accompagnement de ce secteur privé. Ce qui a rendu la chose relativement difficile, puisque en pratiquement une décennie, comme nous l'avons dit, nous sommes à peu près à 30 000 logements effectivement réalisés. Alors que nous savons très bien que quand le secteur privé est motivé, quand il y a un marché, le secteur privé n'a pas besoin qu'on le pousse. Il y va naturellement. C'est pour cela que nous avons, depuis 2 ans, procédé à une réforme approfondie de tout le secteur du logement, de façon à créer des conditions d'attraction qui soient plus fortes. C'est cela qui a conduit à la décision d'aller sur un projet pilote qui s'appelle le programme d'urgence de 25 000 logements, qui va permettre à l'État lui-même d'essuyer les plâtres, comme on dit, d'opérationnaliser l'ensemble des réformes faites, de façon à ce que le secteur privé soit rassuré définitivement et prenne la main sur le projet.
Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. et en ce qui concerne l'actualité à l'intérieur du pays. À peine la campagne intermédiaire ouverte, les opérateurs de la filière cacao ont le sommeil troublé dans la région du Guémont et celle du Cavalli. Deux braquages ont été perpétrés ces derniers temps dans deux localités, occasionnant la perte de 148 millions de francs CFA à Dieukoué et de 21 millions à Guiglo par le fait de bandits armés. Les détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
L'unité policière s'est mise sur la trace des coupables. Le commissaire de Guiglo, Nda Aoussi Martin, compte les faits.
Monsieur Guessa s'est rendu le matin du jour du braquage à la banque où il a arrêté la somme de 21 millions pour l'achat des feuilles de cacao. Il est tourné dans sa zone pour pouvoir remettre l'argent à ses pisteurs pour l'achat des feuilles de cacao. Juste le temps du pan du carburant, il a été accosté par deux individus à moto qui lui ont intimé l'ordre de leur remettre la clé du véhicule. Il a refusé et quand ils ont sorti l'arme, il a condamné la volée. Il a pris la fuite. Les bandits armés de Kalash ont tiré dans les portières, ils ont ouvert le véhicule et ils ont pris le sac contenant la somme de 21 millions.
S'ensuit alors une enquête qui aboutit à l'interpellation de deux individus.
C'est par rapport au braquage que nous avons pris. C'est à cause de ça, je suis là. Le braquage s'est passé à Djoulo. Il y a un monsieur qui a pris l'argent avec lui. On dit 146 millions. Si tu me suis informé, c'est 21 millions. Quand ils ont fait là, ils ont donné 150 000.
Moi, le travail qui est fait dedans, c'est âme la somme à porter pour moi. Quand ils ont fini là, ils sont allés. C'était moi qui ai souffert des gants. Ils m'ont donné 1 million.
Quant au commissaire divisionnaire major, Ouattara Dongi Brahima, il a fait cette adresse aux opérateurs de la filière café-cacao des zones concernées.
Il faut bien que les acteurs de la filière café-cacao prennent certaines dispositions quant à leurs responsabilités dans la gestion des fonds qui leur sont donnés. Parce que malheureusement, au constat, il n'y a qu'aujourd'hui, principalement dans notre zone, qu'il y a des vols à main armée portant sur de fortes sommes.
Rappelons que la campagne intermédiaire vient de s'ouvrir il y a peu. Stéphane Adams, de retour des Guiglo, Radio de la Paix.
À Boaké, on s'intéresse à la littérature. Le livre et l'industrie du livre étaient au centre d'une conférence prononcée lundi par deux enseignants de l'université Alassane Ouattara. Initiée par le centre culturel Jacques Aka de Boaké, en collaboration avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, cette activité culturelle a mis en avant la capacité du livre à permettre à l'homme de s'affranchir dans tous les domaines, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Béké.
Au-delà des expositions et des activités ludiques, le centre culturel Jacques Aka de Boaké a une autre vision, selon son directeur Sid Diallo Razak.
La lecture, la littérature, les rencontres, les débats, les cafés littéraires vont revenir pour poser leurs valises ici au centre. Le livre, la lecture, dont on fait la promotion, sont des éléments catalyseurs.
Idée épousée par le premier panéliste, le professeur Toby Emmanuel, enseignant de lettres modernes à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Le livre est la socio-mercantilisation de l'écriture. C'est-à-dire que le livre, c'est l'écriture qu'on rend publique pour vendre au grand public, pour instruire le grand public. Écrire, bien écrire, c'est combattre. Parce que l'écriture elle-même met en jeu la mise en œuvre psycho-intellectuelle de plusieurs mécanismes, de plusieurs règles, de plusieurs schémas structurels. En conclusion, celui qui s'adonne à l'écriture est un combattant d'esprit.
Zoro B. Philippe, professeur en linguistique anglaise à l'UAO de Boaké.
Le vocabulaire qui s'accroît, le livre nous permet au moins de partager nos émotions, nos vécus. Tant que nous ne le faisons pas, alors ces histoires restent à nous seuls. Mais lorsque c'est partagé, c'est édifié et beaucoup d'autres profitent de nos histoires. Si les histoires sont bonnes, ça leur permet de copier.
Kwadjo Aoutou Mathieu, directeur régional de la culture et de la francophonie de Béké. Organiser de petits concours qui puissent permettre aux enfants de prendre goût à la lecture.
Tous les intervenants ont conclu pour dire que l'industrie du livre doit être une source de création de richesses en Afrique. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, au Sénégal, une semaine après la nomination de son gouvernement par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a promis rompre avec le passé, la colère ne passe pas au vu du peu de femmes ministres dans son équipe, seulement 4. Une faible représentation qui fait réagir, 4 femmes sur 31 ministres, cela représente 13% des effectifs. Dans le dernier gouvernement de Macky Sall, elles étaient 18%, un chiffre peu conséquent déjà. Dans une déclaration signée par 250 personnalités et 24 organisations, le collectif dénonce cette sous-représentation des femmes, notamment Aminata Fong Niang, présidente de l'Association des femmes juristes, qui affirme que c'est une déception compte tenu de la rupture annoncée par le nouveau régime. Les États-Unis tentent d'éviter une escalade du conflit au Moyen-Orient, des jours après l'attaque du consulat iranien de Damas en Syrie. Attribuée à Israël, elle a fait une quinzaine de morts, dont 7 membres des gardiens de la Révolution. Des menaces de représailles de l'Iran contre Israël ont de nouveau fait monter la tension ce vendredi au Proche-Orient, suscitant des appels à la retenue au moment où des progrès en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se font entendre. Et sans transition aucune, nous en arrivons à l'invité de la rédaction. Nous recevons ce jour le deuxième vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cette institution appelle les commerçants ambulants, les mendiants et les charretiers, communément appelés Wotro, à ne plus exercer dans les lieux publics d'Abidjan. Ntcho Kwao Vincent répond sur ce sujet aux questions de Francis Cassi.
Ntcho Kwao Vincent, bonjour.
Bonjour.
Le district d'Abidjan a produit un communiqué quant aux commerçants ambulants, mendiants et autres. Pourquoi ?
Dans la même ligne de la lutte contre le désordre urbain et l'assainissement, nous débarrassons Abidjan de certaines pratiques qui ont cours, c'est-à-dire la vente sur les grandes artères, ce phénomène nouveau de la mendicité et surtout l'utilisation des charrettes appelées communément auto qui empêchent la fluidité routière.
Concernant les charrettes autres, les commerçants ambulants, en quoi est-ce que cela constitue un désordre? C'est des personnes qui transportent d'un point A à un point B des marchandises.
Oui, mais nous ne disons pas non. Mais lorsque vous voyez l'image d'Abidjan, aujourd'hui, avec toutes ces infrastructures que nous avons, où notre pays, la Côte d'Ivoire, et sa capitale économique, est sollicité par toutes les grandes conférences internationales, souffrait qu'arrivé à un point, nous puissions nous regarder et prendre la vie moderne.
Donc, est-ce à dire que les commerçants ambulants et notamment les charrettes, ceux qu'on appelle les Wotrotiki, on ne doit plus les voir à Abidjan ou bien on doit les parquer quelque part?
Non, nous disons que nous ne voulons plus voir ce modèle-là même à Abidjan. Aujourd'hui, là, nous disons qu'Abidjan est moderne et tout doit suivre cette modernité. Voilà.
Mais parmi les populations, il y en a qui n'ont pas assez de moyens et donc se rabattent sur les Wotrotiki.
Voyez-vous, nous disons que c'est ce discours-là qu'ensemble nous devons bannir. Mais c'est autre truc, ceux qui les prennent la payent. Allez un peu au marché, vous allez voir le coût exorbitant que les gens payent. Ça ne l'empêche pas de prendre les taxis pour faire cette course-là.
Donc désormais, tout doit se faire avec les voitures, c'est ça?
Voilà, nous avons des tricycles du temps moderne qu'on peut utiliser. Mais aujourd'hui, nous pensons que pour l'image d'Abidjan, il est quand même inadmissible de voir ces pratiques-là. Nous l'avons pratiqué depuis un certain temps, mais aujourd'hui, nous devons changer de cap.
Alors, venons-en maintenant au mendiant. Qui est le mendiant, selon vous, qui dérange?
Mais le mendiant, lorsque vous circulez, vous voyez ces jeunes dames, ces jeunes gens qui ont la plénitude de leur capacité, qui sont déversés et qui accostent les usagers à tout bout de champ. Lorsque vous regardez après les enquêtes, c'est de l'exploitation. Et nous ne pouvons pas rester sans réagir devant ce phénomène nouveau d'exploitation.
Mais ces cas de mendiants dont vous parlez, souvent on entend dire que c'est lié à la culture, c'est lié à la religion, c'est lié à ceci et cela.
Mais vous savez, il y a des personnes en difficulté qui aident. Mais aujourd'hui, transformer cela en une pratique, en faire un travail, nous disons non au niveau du district.
Donc vous êtes pour la mendicité dans un endroit bien précis, comme vous venez de le dire, mais pas en étant ça et là dans Abidjan.
Oui, et je pense que aujourd'hui nous avons nos cultures, nous avons nos religions, où nous savons, par exemple, en période de jeûne, dans toutes les mosquées vous allez, on aide les économiquement faibles, les gens font le partage. Ça, on comprend. Mais en faire une activité éducative, nous disons non.
Mais est-ce que vous avez précédé cela d'une campagne de sensibilisation, que désormais il ne doit plus être sur les voies?
Pour vous qui êtes à Abidjan, vous savez que plusieurs fois, l'État de Côte d'Ivoire, par ses démembrements, a essayé de mener ce combat. Mais aujourd'hui, tous ces vendeurs ambulants, ils prennent les marchandises dans un magasin. Nous demandons à ce qu'ils aillent là-bas. Ils ne payent aucune taxe à l'État de Côte d'Ivoire, ni aux communes. Pendant ce temps, vous avez la petite ménagère qui a sa petite table et qui paye les taxes qui fait de la loco qui paye les taxes. Donc, cette concurrence-là, arrivé à un moment, il faut que nous puissions aider et soutenir l'action de ceux qui participent au développement de ce pays-là.
Alors, parlant des commerçants ambulants, c'est ceux qui vendent à la suvette sur les trottoirs?
Oui, sur les trottoirs, aux abords de nos carrefours, sur les grandes artères. Nous disons que désormais, les marchandises seront automatiquement arrachées, confisquées et avec un traitement que nous réservons.
Mais, monsieur le vice-gouverneur, on peut vous rétorquer que ces personnes-là, compte tenu des difficultés de la vie, vendent ainsi pour pouvoir se prendre en charge.
Mais il y a des zones dédiées pour aller dans nos communes. Vous voyez ces marchés modernes construits par les mairies qui sont vides. Il y a des magasins.
Mais on va vous dire aussi que prendre un magasin, c'est coûteux.
Mais et ceux qui gèrent ce commerce-là avec des taxes, vous pensez qu'eux aussi, on ne devrait pas les soutenir?
Alors, un message direct aux commerçants ambulants, aux mendiants et à ceux qu'on appelle Wotrotiki, c'est-à-dire qui poussent des charrettes.
Nous voulons assainir Abidjan. Aujourd'hui, le président de la République a mis les moyens, a mis des infrastructures qui font que Abidjan est une destination prisée. Nous devons ensemble soutenir cette action par un comportement citoyen. Dorénavant, les vendeurs ambulants, la mendicité sur toutes ses formes, les charrettes à bras, appelées communément auto, nous disons que nous ne pouvons plus continuer d'avoir ces engins-là dans les rues du district d'Abidjan.
Nchukwao Vincent, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction avec Nchukwao Vincent, deuxième vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Et c'est ici que prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. La Journée internationale des droits de la femme a été officiellement célébrée hier jeudi avec en ligne de mire la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. En construction, le programme d'urgence des logements sociaux subit une réforme pour attirer le secteur privé dans sa mise en œuvre. Et au Sénégal, un collectif dénonce la sous-représentation des femmes dans le nouveau gouvernement. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Retrouvez juste après ce journal la revue de presse avec Jean-Mylène Bitti.
Bonjour à tous. Les journaux de ce jour sont diversement revenus sur la commémoration du 11 avril, chacun selon sa sensibilité. Lors de cette commémoration organisée par le RHDP au Palais de